Journée mondiale des océans, le 8 juin, et 3e édition des Journées de la mer, organisée par le ministère de l'Écologie. Du 8 au 13 juin, l'Aquarium de la Porte Dorée à Paris accueille une exposition de sculptures en plastique issues de nos détritus dans l'océan, sera en direct avec l'expédition Tara, dont les photographies du blanchissement des récifs coralliens des îles Éparses sont exposées, organise des jeux et concours pour les enfants en présence de Maud Fontenoy, et ouvre bien sûr gratuitement ses portes aux amateurs de crocodiles, et poissons archers. Petite visite avec Michel Ignette, le directeur de l'aquarium de la Porte Dorée.
À Mayotte, les scientifiques ont enregistré cet épisode de blanchissement. Ils l'ont quasiment vécu, ils sont arrivés juste après cet épisode, ce qui montre qu'après l'épisode de 1998 qui avait déjà été très très dur, il y en a eu un nouveau. On a l'impression que c'est presque tous les 10 ans. Les récifs coralliens ont beaucoup de mal à récupérer entre-temps.
Des sculptures en plastique malheureusement accumulées dans les océans, des images inouïes de l'expédition Tara, en particulier du blanchissement des récifs coralliens, la présence de Maud Fontenoy, à la fois la journée mondiale des océans le 8 juin et la semaine entière de la 3e édition des Journées de la mer, tout indique de se diriger vers l'aquarium de la Porte Dorée. Petite visite en préambule avec Michel Ignette, directeur de l'aquarium de la Porte Dorée. Il a du reste dirigé pendant 10 ans celui de Monaco. Il y a un an exactement, vous aviez deux raitons. On peut naître aujourd'hui à l'aquarium, donc.
Oui, on a cette chance, effectivement, que notamment en eau douce, et là, il s'agit de raies d'eau douce, on a pas mal de reproductions à l'aquarium. Alors, pour les raies, c'est évidemment quelque chose qui est inhabituel. Un peu de gens savent qu'on peut avoir ce type de reproduction. On a la chance d'avoir une très belle collection de raies d'eau douce. C'est des pneumatotrigones qui vivent dans le bassin amazonien et qui se sont bien diversifiées. On pense que c'est des raies marines à l'origine, mais qui se sont adaptées à l'eau douce. Donc, il y a une trentaine d'espèces. Et donc, on a la chance d'avoir un certain nombre d'espèces qui se reproduisent ici de manière assez régulière. Et c'est vrai qu'on avait ce clin d'œil le jour pile de la Journée mondiale des océans. On avait eu cette reproduction.
Combien avez-vous de pensionnaires à la Porte Dorée ainsi ?
Alors, le chiffre évolue évidemment un peu au cours du temps, en fonction des naissances, en fonction des échanges qu'on fait avec les collègues, en fonction des décès, bien sûr. Donc, on donne un chiffre moyen qui est de l'ordre de 5000 individus. On a à peu près 300 espèces.
Mais c'est terrible, ça bouge tout le temps, ça.
Ça bouge tout le temps, ça nous pose d'ailleurs des problèmes d'inventaire.
C'est compliqué la nature, c'est pas comme la comptabilité nationale, on peut pas dire je sais, j'en ai 5000, vous fermez votre classeur et le lendemain matin vous revenez, et c'est pas le même nombre.
Absolument, on a souvent des naissances effectivement qui ont lieu la nuit, et on peut avoir 500 individus de plus. Donc vous voyez, par rapport à 5000, on est quand même dans des pourcentages importants, c'est pas anecdotique, c'est pour ça que nous donnons des chiffres moyens.
Alors ce qui est bien quand on vient ici, c'est qu'on peut voir les poissons.
Oui, alors ça c'est évidemment l'avantage d'un aquarium. Alors cet aquarium est un aquarium historique, puisqu'il date de l'exposition coloniale de 1931. La thématique est une thématique tropicale. Donc on a uniquement des animaux marins et d'eau douce de la zone intertropicale. On n'a absolument pas les animaux de nos côtes.
Vous avez des animaux impressionnants, vous avez même des crocodiles.
Oui, en dehors des poissons et des invertébrés marins, on a effectivement un certain nombre de crocodiles. Donc actuellement, on présente des alligators du Mississippi et des très très jeunes crocodiles du Nil. On a un partenariat avec la ferme aux crocodiles de Pierre-Latte et on fait une rotation. Donc chaque année, on prend les jeunes éclos. L'éclosion a lieu généralement au mois de juillet chez eux. Donc on les récupère quand ils peuvent être transportés sans difficulté, généralement au mois de septembre. Et puis l'année d'après, on recommence, on fait la permutation parce que les animaux sont devenus trop grands pour le bac que l'on leur consacre. Et puis donc montrer des très très jeune crocodile a un impact important auprès de notre jeune public. On essaye de faire passer des notions de mesures de protection qui sont importantes puisque ce sont des animaux protégés et quand on va dans les pays d'origine, il est important de ne pas se faire piéger à acheter des souliers, des ceintures, un sac en peau de crocodile pour lequel il n'y aurait pas d'autorisation. Alors qu'il y a des fermes d'élevage, et là pour lesquelles effectivement il y a des autorisations.
On va tâcher d'en ressortir vivant. Les journées de la mer cette année, vous axez sur quoi ?
Alors au niveau niveau des journées de la mer, c'est-à-dire on a beaucoup, beaucoup d'opérations. On a déjà le ministère de l'écologie qui présente dans nos locaux une exposition sur les macro-déchets. Donc c'est principalement des déchets plastiques que l'homme rejette d'une manière ou d'une autre, hein, soit directement quand les gens sont en mer, mais ça c'est minoritaire, et surtout qui sont apportés par les fleuves. On a des endroits dans le monde où ces déchets s'accumulent. On parle de 6e continent, 7e continent, 8e continent. Enfin, c'est invraisemblable. Alors c'est pas du dur, évidemment, puisque ce sont des déchets qui ont tendance à se désagréger, mais ça représente des tonnages absolument invraisemblables, hein, au niveau de ces accumulations. Et alors là, des artistes ont récupéré des morceaux de plastique déposés par la mer et en ont fait des œuvres d'art. Et évidemment, ces œuvres d'art interpellent les visiteurs, parce que quand on connaît l'origine des matériaux, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Alors, on n'est pas capable, hein, faut être honnête, de dépolluer compte tenu de la quantité de plastique maintenant qu'il y a en mer. Donc la seule chose, effectivement, qu'il faut faire raisonnablement, c'est de ne pas rejeter de plastique. Donc ça, je crois que c'est un comportement qu'il faut que chacun ait. Et bien sûr qu'on utilise du plastique, mais ne pas le déposer n'importe où et faire très très attention au devenir de ces déchets plastiques qui, sinon, vont poser des problèmes majeurs au niveau océanique.
Ça veut dire que quand on a fait, par exemple, un pique-nique ou quand on a jeté sa bouteille n'importe où, ça a créé ce 6e continent qu'aujourd'hui, on ne peut pas détruire.
Oui, alors tous les déchets, alors il y a les sacs plastiques bien évidemment emportés par le vent, parce que là éventuellement les gens d'ailleurs n'ont pas conscience, ils l'ont déposé à un endroit où a priori ne devrait pas y avoir de problème, un endroit où justement on collecte des déchets, mais si c'est pas fait de manière très étanche, on va avoir, si on est en bord de mer par exemple, les goélands qui vont venir piquer, qui vont désagréger un certain nombre de choses, un coup de vent et les restes du sac plastique s'envolent, se retrouvent en mer. Bon, c'est un exemple, mais il y a des gens qui ont un comportement pas tout à fait satisfaisant, qui laissent les déchets n'importe où, qui les jettent, bon, bah, ça va à la rivière, de la rivière ça va au fleuve, ça se retrouve en mer. Donc ils se désagrègent progressivement. On considère que la durée de vie d'un sac plastique, c'est à peu près 200 ans. Un bidon plastique, c'est 400 à plus. On manque de recul, hein, mais on a quand même quelques indications. Ça se désagrège en morceaux de plus en plus petits. Ils ressemblent à des éléments du plancton et donc vont être ingérés par des animaux. Ça rentre à nouveau dans la chaîne alimentaire, ça se concentre vers les échelons supérieurs et on ne sait pas du tout ce que ça va donner, y compris pour l'homme.
Vous allez nous montrer ça, donc vous allez nous montrer d'autres choses encore ?
Oui, alors ça c'est une exposition. On a une deuxième exposition là qu'on monte à cette occasion, mais qui va durer jusqu'en décembre, qui est une exposition qui est consacrée aux récifs coralliens des îles françaises de l'océan Indien. On est dans l'année des Outre-mer, donc on a voulu mettre un peu l'accent sur les îles françaises. On avait déjà traité les récifs coralliens de manière globale il y a quelques années. On avait fait un focus évidemment sur la Nouvelle-Calédonie lors du classement au patrimoine mondial. Et donc là maintenant, c'est les îles de l'océan Indien dont on parle, avec notamment les îles éparses, dont personne ne sait que la France a la souveraineté sur ces 5 îles qui sont réparties autour de Madagascar, hein, 4 dans le canal du Mozambique entre l'Afrique et Madagascar, et puis l'autre, au contraire, de l'autre côté de Madagascar vers la Réunion, hein, c'est Tromelin dont on a un peu parlé, puisqu'il y a eu un roman notamment d'Irène Frein il n'y a pas très longtemps qui a eu beaucoup de succès. Et là, actuellement, on est quand même dans une dynamique de protection de ces îles. On a déjà un parc naturel marin à Mayotte et il va y avoir prochainement la création d'un parc naturel marin aux Glorieuses, qui est une des îles éparses. Et en plus, ces deux parcs naturels marins vont se rejoindre, ce qui fait que ça va faire une très très grande étendue qui va être l'objet de mesures de protection. Donc c'est quelque chose de très intéressant et sur lequel il était utile que l'aquarium communique.
C'est vraiment une chose passionnante que de montrer ces animaux, donc ces colonies d'animaux que sont les récifs coralliens, avec le souci du blanchiment dans la région, ça se pose aussi.
Oui, alors malheureusement, au niveau blanchissement...
Blanchissement, oui, c'est de ma faute, c'est pas de l'argent.
Les deux termes sont employés, hein, dont on préfère le terme blanchissement, effectivement. Ce qui est très malheureux, c'est que la température des océans peut s'élever, notamment quand il y a des incidents El Niño. Nous allons présenter des films de l'expédition Tara. L'expédition Tara est allée à Mayotte à un moment où il venait juste d'y avoir un épisode de blanchissement, donc on a des images qui sont magnifiques entre guillemets, mais très 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 malheureuses. C'est-à-dire qu'on a le début du blanchissement, donc on voit les coraux complètement blancs, mais pas encore recouverts par les algues. Donc on se rend bien compte que ce sont des coraux, mais enfin ce ne sont plus que des squelettes de coraux. Donc c'est des images très très impressionnantes. Donc c'est malheureux, mais le relativement bon côté des choses, c'est que l'expédition Tara est arrivée juste à ce moment-là et a pu faire des images, je pense, utiles en termes de communication. Donc le 8 juin, nous aurons la programmation de ces films de l'expédition Tara, je trouvais important de montrer aux gens ce qu'il y a, parce que sous l'eau, on n'y va pas, enfin la majorité des gens n'y voient pas, donc ne se rendent pas compte de ce qui existe. Alors, on a un autre événement important, c'est que Maud Fontenoy va présenter un certain nombre de choses ici, notamment elle a une charte donc qu'elle lance, elle réunit un certain nombre de scolaires qui ont participé à un concours, et donc les lauréats de ce concours seront présents. On aura également justement les œuvres des élèves qui ont concouru. On a des partenariats également avec des sociétés privées, comme la société Tetra, expert dans le domaine de l'aquariophilie, qui a un jeu de cartes et un quiz. Donc on va avoir un tournoi de cartes, mais évidemment c'est des cartes très particulières qui incitent à la protection de l'environnement. Donc vraiment, pour la Journée mondiale des océans, ici on a tout un tas d'événements, et chez les collègues dans les autres aquariums, bien entendu, tout le monde participe. On a une association de directeurs d'aquariums qui est très dynamique, et on est inclus dans un système beaucoup plus vaste au niveau mondial, qui est le World Ocean Network, qui organise évidemment beaucoup de choses à l'occasion de la Journée mondiale des océans. Donc il faut aller regarder sur les sites internet, notamment ce qu'il peut y avoir à proximité, parce qu'il y a tellement d'événements que je ne peux pas évidemment en parler ici.
Michel Ignette, vous êtes scientifique et vous présidez cette Union des conservateurs d'aquarium. À quoi ça sert ?
Il est utile que chaque profession essaye d'échanger. Ce qu'il y a, c'est qu'entre nous, on a la chance d'avoir une passion commune pour le métier qu'on exerce. Donc les problèmes de concurrence éventuelle dont j'entends parler, les gens disent, mais vous échangez entre vous des informations qui ont une valeur, y compris une valeur qui peut être économique. Et bon, c'est étonnant que vous échangiez comme ça. Bon, ça, c'est lié au fait qu'on a en commun cette passion. Le reste est complètement anecdotique. Donc c'est vrai qu'il y a des échanges absolument considérables d'informations, de matériel, d'animaux. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très sympathique, qui donne une dynamique forte à cette profession.
Pour ne rien manquer, en particulier le direct avec Tara, eh bien www.aquarium-portedoré.fr. C'est gratuit et c'est très vivant.